affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. À l'heure où nous enregistrons cette émission, nous célébrons le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Les moins jeunes d'entre nous se souviennent de l'enthousiasme qui s'empara alors des opinions publiques occidentales. Non seulement l'Europe entamait sa réunification, mais le principal modèle alternatif à la démocratie libérale allait s'effondrer. Si bien que, lorsque peu après, l'URSS est disloquée, on pouvait légitimement penser, à l'instar du philosophe nippo-américain Francis Fukuyama, que l'humanité allait entrer dans une nouvelle ère, plus prospère, plus libre, plus apaisée, puisque la planète communierait, pensait-il, bientôt tout entière dans la démocratie et l'économie de marché. Si bien qu'il s'agissait, selon ses propres termes, d'une sorte de fin de l'histoire. 30 ans plus tard, force est de constater que le bilan est on ne peut plus mitigé. Certes, l'économie de marché s'est étendue, mais la démocratie n'a pas suivi. Puis, dans ce grand marché où l'on échange les produits, mais aussi les idées, la démocratie a trouvé des modèles alternatifs, portés non par quelques attardés, des États voyous, comme on disait à l'époque, mais par la puissance mondiale qui est devenue, par exemple, la Chine et quelques autres. Et ce n'est pas tout. Au sein même des nations berceaux de l'idéal démocratique, l'Europe et les États-Unis, le prestige du modèle s'est amoindri face à ce constat. Certains se résignent, d'autres se crispent, considérant que les critiques du modèle démocratique occidental seraient par nature le fait de méchants. D'autres, enfin, considèrent que cette situation exige un sursaut, une réflexion, un engagement. Bien entendu, notre invité de ce jour se classe dans cette troisième catégorie. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Nous recevons Philippe Kourilski, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France. Monsieur, vous êtes biologiste, spécialiste en immunologie. Et vous venez de publier un livre intitulé « De la science et de la démocratie ». Ce n'est pas le terrain de jeu habituel des membres de votre profession. Qu'est-ce qui vous a poussé à publier cet ouvrage appelant un renouvellement du modèle démocratique occidental ?
Eh bien, écoutez, dans mon existence professionnelle, j'ai pas mal voyagé. Et notamment, il m'est arrivé d'être directeur général de l'Institut Pasteur et de son réseau international, président de son réseau international, qui est très, très présent dans beaucoup de parties du monde, et surtout, il faut bien le dire, des parties pauvres du monde. Et surtout, il faut bien le dire aussi, pour des raisons historiques évidentes, les anciennes colonies françaises. Incidemment, ce réseau, nous l'avons étendu et ce n'est pas tout à fait indifférent qu'avec mes collaborateurs, nous ayons créé un institut Pasteur en Chine, ce qui a beaucoup nourri ma réflexion, un autre en Corée, un autre en Amérique du Sud, etc. Bref, côtoyer la pauvreté quand on est scientifique, c'est quand même quelque chose qui interpelle. Lorsqu'on a, comme moi, vécu quelques décennies dans le confort de laboratoires bien équipés, au CNRS, à l'Institut Pasteur, à l'INSERM, et qu'on est confronté aux difficultés totalement pratiques et réelles de la santé dans les pays en développement, disons le tiers-monde, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir et ça m'a fait d'autant plus réfléchir que trois ministères m'ont commandé en 2006 un rapport sur la manière dont la France pourrait améliorer les conditions d'exercice de ses partenariats dans la santé mondiale. À cette occasion, ayant constaté dans mes différents voyages et activités le désordre assez stupéfiant qui existe en matière d'action publique, d'ONG, d'aide au développement, j'avais écrit dans ce rapport une des préconisations, c'était il faudrait que tout ça devienne beaucoup plus scientifique. Et donc, je suis rentré dans une sorte de logique à l'époque qui est comment l'action de terrain peut devenir plus scientifique. Voilà. Et donc, c'était dans ma tête une entrée de la science dans les domaines sociaux. J'ai cultivé ma réflexion sur ces questions depuis ce temps-là. Et notamment, j'avais commencé à travailler sur les questions d'altruisme à ma mesure, c'est-à-dire que je ne suis ni sociologue ni philosophe, bien entendu. Mais enfin, on essaie quand même de réfléchir, de structurer la réflexion. Et j'avais eu la chance de côtoyer un très grand économiste qui est en même temps un grand philosophe ou une stature morale qui s'appelle Amartya Sen, avec qui j'avais pas mal discuté. Et c'est un peu en m'inspirant de certaines de ses théories, de sa pratique philosophique, que j'ai travaillé vraiment sur l'altruisme, sur ce que ça voulait dire en termes de rapport à la liberté. Et c'est ce qui a fini par fonder une réflexion qui s'est nourrie avec le temps et qui a débouché sur ce livre, où effectivement la question de la science est abordée par le fait que la science, c'est ce que je connais, si vous voulez, c'est mon métier, c'est ma pratique, c'est mon éthique également. Et la démocratie, parce que c'est là où s'exerce, politiquement parlant, le maximum de liberté. Et donc, effectivement, en tant que scientifique d'un côté, citoyen de l'autre, en mixant les deux, si j'ose dire, j'en suis arrivé à ce livre.
Très bien. Dans votre réflexion de scientifique désireux d'apporter des remèdes à une démocratie pas toujours en très bon état, vous travaillez notamment par analogie entre les corps vivants et les corps sociaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces analogies, parce qu'elles sont en quelque sorte fondatrices de la réflexion?
Oui. Comme vous l'avez dit, j'ai professé l'immunologie au Collège de France et dans cette merveilleuse institution, aussi merveilleuse que l'Académie des sciences. Et dans cette merveilleuse institution, on est amené à réfléchir puisqu'il y a une règle d'or. On n'enseigne jamais deux fois la même chose. Donc on est forcé de se remettre en question, de réapprendre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est à cette occasion que j'ai commencé à réfléchir à fond et à travailler réellement sur ce que veut dire la complexité en biologie. La complexité en biologie, je pense que c'est extrêmement important. Le système immunitaire est évidemment un système extrêmement complexe, tout le monde est d'accord. Mais en réalité, n'importe quel être vivant, du plus petit au plus gros, commencer par une bête bactérie, si j'ose dire, c'est un être vivant, c'est extrêmement complexe, si vous voulez. Cette complexité se pense et se représente avec aujourd'hui des instruments qui sont importants à connaître. Alors, je suis devenu un militant de la pensée complexe, mais de la pensée complexe entendue moins au niveau philosophique, comme Edgar Morin l'a pu la promouvoir, que sur la ces composantes scientifiques. Et ces composantes scientifiques, en réalité, ont été développées ailleurs qu'en biologie, pour commencer. Elles ont été développées essentiellement dans les sciences de l'ingénieur. Pourquoi ? Parce qu'un avion, c'est complexe. Une voiture, c'est complexe. Un téléphone portable, c'est complexe. Un ordinateur, c'est complexe. Et donc, dans tous ces domaines-là, se sont développées un certain nombre de notions qui sont vraiment, à mon avis, très, très importantes et fondatrices. Alors, il y en a une que j'articule tout de suite parce qu'elle est vraiment, à mon sens, très, très importante. C'est la notion de robustesse. Donc, si vous voulez, un système complexe, c'est un système dans lequel il y a plein d'éléments différents et plein d'interactions différentes entre des éléments différents. Voilà, donc c'est compliqué de partout, quoi. Bon. Alors, quand on a dit ça, on dit, oui, c'est compliqué. Pourquoi vous dites que c'est complexe ? Effectivement, il y a des gens qui vous disent, non, un avion, c'est compliqué, mais c'est pas complexe. Sauf qu'il y a quelque chose de complexe là-dedans, c'est que de temps en temps, il y a des pannes. Et les pannes, on ne sait pas les prévoir. Les pannes, c'est le fait du hasard. Et en fait, ça amène presque philosophiquement, si j'ose dire, encore une fois, je ne suis pas philosophe, mais ça amène à réfléchir le rapport qu'il y a entre les systèmes vivants, mais aussi les systèmes sociaux, et le hasard. Le hasard, c'est ce qui peut arriver soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Donc, si vous prenez un avion, le hasard extérieur, c'est boum, un orage, un éclair, etc. Le hasard intérieur, c'est un circuit électrique qui crame. Bon. Et du coup, l'avion est robuste à partir du moment où la machine est conçue de telle sorte qu'elle est capable de résister aux désordres qui sont généralement le fait du hasard et qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Alors, la chose est parfaitement transposable au système vivant. Un organisme, un homme, enfin un organisme vivant comme vous et moi, les hasards extérieurs, c'est se casser la gueule dans la rue, hein, ou se faire renverser par une bagnole. Le hasard intérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui déraille à l'intérieur, c'est le cancer, ou les cancers plus exactement. Ça fait partie des malheureux hasards de la vie. Et donc, en réalité, ce que j'ai effectivement appris comme immunologiste, et j'y arrive enfin, pardonnez-moi si je suis un petit peu...
Non, c'est très bien, c'est très bien. Il faut expliquer les concepts d'abord. Oui.
Et ce que j'ai appris donc de l'immunologie, c'est que nos systèmes vivants sont complexes, et comme ils sont complexes, ils font forcément des fautes. Et donc, la robustesse du système, c'est d'avoir des dispositifs qui analyse ce qui se passe et qui corrige quand ça déraille. Bon. Et donc, le système immunitaire, en réalité, c'est ça. C'est quelque chose qui est là pour surveiller ce qui se passe de l'extérieur. Donc, si je chope un virus, la grippe ou autre chose, j'ai un système immunitaire qui, dans la plupart des cas, va me protéger contre l'infection. Ou c'est quelque chose qui déraille de l'intérieur, et notamment les cancers. Et en vérité, ça n'est pas uniquement restreint au système immunitaire, dans la mesure où nous avons plein d'autres mécanismes à l'intérieur qui sont des mécanismes de correction des erreurs, et notamment au niveau de la réplication de l'ADN, donc de la division des cellules. Et quand ça déraille, c'est effectivement ce qui est à l'origine de pas mal de cancers. Donc au total, si vous voulez, pour me résumer, la robustesse, c'est cette propriété des systèmes complexes qui fait que le système est vaillant, résistant à pas mal de problèmes qui se produisent de l'extérieur ou de l'intérieur et qui sont assez souvent le fait du hasard. Donc voilà ce qu'est la robustesse. Alors à partir de ça, si vous voulez, j'ai commencé à réfléchir notamment à la question de la pauvreté. La pauvreté, qu'est-ce que c'est ? C'est une pathologie du corps social. On peut le dire comme ça. Et en fait, je ne suis pas le premier à le dire. Victor Hugo l'a prononcé dans un discours très, très célèbre où il comparait la pauvreté à la lèpre. Et on peut se demander pourquoi et comment on n'a pas réussi à éradiquer la pauvreté. La réponse, et je crois que c'est assez bête, si j'ose dire, c'est que si c'était simple, on l'aurait fait. Si c'est pas simple, c'est que c'est complexe. Et si c'est complexe, c'est qu'en fait, il y a un défaut dans la robustesse de nos systèmes sociaux qui fait qu'on n'arrive pas à corriger ce genre de pathologie du corps social. Alors, pour reprendre les choses de façon plus générale, effectivement, on peut faire une analogie entre un corps social et un corps vivant. Comparaison n'est pas raison, nous le savons tous, mais ça peut inspirer quelques idées. Et personne n'ira contester que le corps social, qu'on appelle d'ailleurs corps social dans le langage courant, qu'une société, c'est extrêmement complexe. Et d'ailleurs, si on veut la faire rentrer dans la définition des systèmes complexes, ça rentre tout à fait. Il y a beaucoup d'éléments différents, beaucoup d'interactions, beaucoup etc.
Même en termes d'imagerie, dans le livre, vous présentez deux images. La première, je crois que c'est une molécule de levure de bière.
Une cellule de bière, oui.
Sinon, ce serait plus simple, peut-être. Une cellule de levure de bière. Et de l'autre, une modélisation des échanges permises par Internet. Alors, c'est curieux parce que ça ressemble à deux fleurs, à des pistils de fleurs presque identiques d'interaction enchevêtrée.
Oui, tout à fait.
C'est assez troublant.
C'est troublant. Et ce petit bout d'Internet ressemble vraiment beaucoup à ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule de levure de bière. Et en fait, cela traduit la transversalité, c'est ce que je vous disais au début. Il y a une transversalité conceptuelle dans les systèmes complexes qui permet de réfléchir. Et j'y insiste d'emblée, sans faire aucune comparaison, la notion de robustesse s'applique aux systèmes sociaux. Il n'y a pas photo. C'est scientifiquement assuré.
Justement, s'agissant de la démocratie, notamment dans le discours des politiques, une de leurs réflexions les plus fréquentes, lorsqu'on leur parle en privé, c'est de dire « Ah oui, mais tout est devenu extrêmement compliqué. La démocratie, c'est compliqué. L'art de gouverner est devenu de plus en plus complexe, car nos sociétés sont devenues de plus en plus complexes. Si on l'imagine aisément, une société d'ancien régime est assez simple. Une dictature, du reste, peut être assez simple aussi. Les nœuds de décision sont pyramidaux, on peut les modéliser très facilement. Alors qu'une démocratie, c'est une somme d'interactions qui partent dans tous les sens, et ça se manœuvre de façon plus délicate. Alors la complexité, c'est un atout ou c'est un inconvénient, un handicap ?
C'est une caractéristique. Voilà, c'est comme ça. Et si vous analysez maintenant l'évolution de la complexité des systèmes sociaux, vous verrez que, évidemment, elle s'est immensément accrue en quelques décennies. D'une part à cause de la démographie et deuxièmement à cause des systèmes de communication.
Donc, oui, car si vous nous expliquez que la complexité, elle résulte de deux choses. D'une part, la diversité. Ouais. Donc plus la diversité est importante, plus un grand éventail de situations, on va dire, et d'intervenants, et par la démultiplication des interactions.
Exact.
Donc là, effectivement, on a l'impression de cocher les deux cases. Là,
on coche les deux cases et même les trois, parce que les interactions, elles sont physiques et virtuelles. Physique, c'est les milliards de voyages en avion qu'il y a maintenant, et virtuel, c'est l'Internet, bien entendu, etc. Donc cette démultiplication de la complexité est absolument colossale, évidemment, elle impacte les systèmes sociaux.
Alors du temps de la guerre froide, que j'ai connu pour ma part, on disait que précisément les sociétés plus rigides et moins complexes qu'étaient les économies planifiées, avait peut-être la force du chêne, elle pouvait être vigoureuse, elle semblait très très forte, mais elle n'avait pas la souplesse et l'agilité du roseau et des démocraties. Est-ce que c'est encore valable ou est-ce qu'on étouffe désormais sous cette complexité ?
Je reviens à votre question antérieure sur le fait que ce soit un avantage ou un inconvénient. Et encore une fois, je m'inspire. Encore une fois, c'est ma culture, donc elle m'inspire. Mais ça n'est pas une obligation intellectuelle de me suivre là-dessus. Mais si on regarde l'évolution du vivant, le vivant évolue vers plus de complexité. Mais il évolue vers plus de complexité avec un accroissement des systèmes qui contrôlent les erreurs dans la complexité. Donc la question de savoir si l'évolution des démocraties est un avantage ou un inconvénient. L'inconvénient, ce serait que la complexité démocratique s'accroisse sans que les systèmes s'accroissent en parallèle. Et encore une fois, on peut pas, rien n'est parfait, évidemment, ce bas monde, et donc tout fait des erreurs. Donc je pense qu'on peut prendre, effectivement, tirer un fil de compréhension sur le phénomène démocratique ou les phénomènes démocratiques à partir de leurs erreurs. Voilà, c'est un peu ça que je dis. Voyons où sont les erreurs et voyons où est la robustesse qui permet que ces erreurs soient corrigées si elles sont commises. Et donc, cette manière de penser introduit la notion de robustesse dans un système démocratique, les systèmes sociaux complexes, démocratiques ou non d'ailleurs, mais vous avez raison, les démocratiques sont plutôt plus complexes que les autres. Bien entendu, et à partir de ça, de se dire, mais pour que ça se passe bien, il ne s'agit pas de rester les bras croisés. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça ne peut se passer bien que s'il y a des systèmes actifs qui font que ça se passe bien. D'où ce qui est un peu une sorte de slogan qui peut paraître étrange, je dis qu'en démocratie comme dans le vivant, il ne suffit pas de vivre. Il faut survivre. Et survivre, ce sont des mécanismes actifs qui permettent la survie. Dans l'organisme humain, juste pour donner un ordre de grandeur, je crois que c'est assez intéressant, dans l'organisme humain, le système immunitaire, c'est en gros 7% du total.
Bon. Considérable déjà.
Oui. Et en gros, si vous voulez, à mon avis, il faut largement doubler pour avoir tous les systèmes de contrôle. Donc, Et quand vous prenez maintenant des artefacts, c'est-à-dire des avions, des téléphones, des machins, etc., et vous regardez la part du système qui est consacré à sa robustesse, elle croît avec la complexité. Donc notre problème démocratique, il est en partie ça, c'est de comprendre où sont les systèmes de contrôle et en quoi ils doivent s'accroître avec la complexité.
Parce qu'une autre façon de formuler ce que vous venez d'exprimer, c'est pas de dire que face à cette complexité, qui est une donnée, la donnée de nos sociétés, quel que soit le régime politique, la diversité est un fait, la démultiplication des interactions aussi. Est-ce que le problème n'est pas d'avoir un système qui utilise les outils d'avant ce monde complexe pour essayer de manœuvrer ce monde complexe? Tant et si bien qu'on peut peut-être illustrer ce propos par le nombre de réflexions foisonnantes, parfois un peu délirantes, qui concernent la nécessité de trouver d'autres outils que, par exemple, la démocratie représentative, qui était peut-être un système assez simple, qui était adapté autrefois à des sociétés également plus simples. J'imagine que dans une société mue par un certain nombre de classes sociales assez délimitées, avec des blocs bien délimités, c'était assez simple. On votait, il y avait un consensus qui s'installait entre un, deux, voire trois blocs, mais qu'aujourd'hui, il y a un tel foisonnement que ce n'est plus tout à fait adapté.
Oui.
Est-ce cela ?
Écoutez, vous n'avez pas tort, mais vous n'avez pas entièrement raison. Voilà.
C'est ça le monde complexe.
C'est ça le monde complexe. Et vous n'avez pas tort parce que, bien entendu, les choses ayant été évoluées, les systèmes démocratiques doivent évoluer aussi. Mais vous n'avez pas totalement raison parce que, à mon avis, la simplification à ne pas commettre, c'est de réduire la démocratie à ses processus électoraux, en gros, à sa gouvernance. Alors, ça, si vous me permettez, je m'étends un tout petit peu là-dessus parce que j'y tiens. Enfin, je pense que c'est vraiment important. Bon, la gouvernance en démocratie, c'est évidemment tout à fait fondamental. S'il n'y a pas de vote, il n'y a pas de démocratie. S'il n'y a pas un vote correct, bon. Et il y a beaucoup de complexité associée à ça. Et après, on pourra peut-être parler de la complexité de l'information nécessaire à faire fonctionner une démocratie. Mais
oui, même dans ce système simple, les paramètres sont nombreux.
Les paramètres sont nombreux. Mais si je prends simplement ça, si on voulait... Et beaucoup trop de personnes le font, à mon avis. Je pense que c'est une erreur conceptuelle. Si on voudrait réduire la démocratie simplement au processus démocratique, je pense qu'on est dans l'erreur. Parce que ça voudrait dire que si vous avez de bons processus démocratiques, tout va bien. J'en suis absolument pas convaincu. Parce qu'il y a bien d'autres problèmes que ceux-là qui ne passent pas la barrière des votes. Et même, si vous voulez, on pourrait à la limite imaginer que ça pourrait bien aller si les processus démocratiques étaient parfaits, mais ils ne le sont pas. Et par conséquent, si nos politiciens étaient parfaitement informés, si nos politiciens faisaient exactement ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, si nos politiciens faisaient exactement ce que les citoyens disent, et si les citoyens disaient exactement ce qu'ils pensent, etc., oui, on aurait peut-être un système démocratique qui fonctionnerait selon les canons démocratiques que nous espérons. Mais ce n'est pas le cas, et ça ne peut pas être le cas. Exactement de la même manière qu'un organisme vivant ne peut pas être éternel. Voilà, c'est juste comme ça. Et par conséquent, si l'on réduit la démocratie à ses processus, et notamment à ses procédures électorales, à mon avis, on connaît une erreur monumentale que beaucoup de gens commettent. Alors effectivement, en démocratie, les minoritaires, ils ne sont jamais contents. Ça, c'est normal. Ils sont censés accepter la loi de la majorité. La loi de la majorité, Tocqueville la décrivait comme une dictature de la majorité. Oui, bien sûr, il y a tout ça, l'alternance, etc. etc. Bon, tout ça est très, très important. Mais je pense qu'il y a plusieurs autres dimensions de la démocratie qui sont importantes et chacune d'entre elles porte ses complexités. Mais la première de ces dimensions, pour moi, c'est tout bête. Mais souvent, les questions bêtes, hein, c'est pas si mal. Bon, la démocratie, pourquoi ? Ça sert à quoi ?
La question des finalités.
Oui. Ça sert à quoi, la démocratie ? Alors, on peut avoir une lecture historique de ça, regardez, alors au départ, lutte contre la dictature, etc., etc. Plus récemment, et c'est défendu par Raymond Aron notamment, répondre à un désir de paix, c'est-à-dire une manière d'éviter les guerres civiles. Mais je pense que la question fondamentale, c'est le bien-être. En démocratie, je n'imagine pas qu'un seul citoyen voterait contre l'idée que la démocratie lui sert à fabriquer du bien-être. Bon. Et le problème du bien-être, et on retombe aux questions de liberté, sur les questions de liberté qui ont été évoquées, la question du bien-être, c'est qu'il faut qu'il soit partagé. Et donc, on ne peut pas défendre le progrès du bien-être sans qu'il y ait progrès de la justice sociale. Je crois que c'est la clé de tout. Et donc, inscrire la finalité de justice sociale dans la finalité démocratique fondamentale, ça me paraît évident. Ça l'est probablement relativement en France, qui, sur le plan constitutionnel, est effectivement un État social, c'est inscrit dans notre Constitution. J'ai la faiblesse de penser que ça l'est peut-être un peu moins aux États-Unis, surtout aujourd'hui.
Donc, probablement en France un petit peu moins aussi, et moins dans les faits. C'est-à-dire qu'on sent que ce lien entre démocratie et justice sociale était au cœur, en quelque sorte, du pacte noué, enfin, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais enfin, par le Conseil national à la résistance et après-guerre, et c'est devenu le pacte fondateur des Trente Glorieuses. Mais les Trente Glorieuses, c'est fini. On est passé de ce monde-là à un monde où les ressources, semble-t-il, sont plus restreintes, à un monde où le marché est devenu global, où les capacités, justement, du politique se sont amoindries par la même occasion. Et d'où la complexité. Comment dans ce monde où le politique n'a plus autant de manettes entre les mains qu'auparavant, promouvoir cet idéal ? Est-ce qu'il n'échappe pas en partie, d'ailleurs, même aux politiques ?
Indubitablement, le politique a quelques problèmes. Moi, je pense qu'il en a deux, fondamentalement. Le premier est d'ordre économique, et fondamentalement pour moi, c'est l'ultralibéralisme. Ça n'est pas le capitalisme, c'est l'ultralibéralisme. Alors bien entendu, comment on définit le capitalisme, le libéralisme, etc., ça on pourrait en parler une émission entière, hein, mais fondamentalement...
Je crois que tout le monde voit à peu près ce dont on parle. Hein.
Fondamentalement, l'ultralibéralisme, en tant qu'il réclame une dérégulation complète des processus économiques, est une sorte d'ennemi constitutif de la justice sociale.
Voire même de l'idée de politique.
Voire même de l'idée de politique. Et ça tue effectivement la politique des États. Donc, ça, c'est le premier ennemi. Et le second, c'est la dérive de l'information, qui est effectivement un problème absolument capital, dans lequel, qui a beaucoup de composantes, mais la moindre des composantes n'est pas la faible appétence du citoyen pour comprendre ce qui se passe, hein. Et pour s'instruire avant de voter. Ça, c'est vraiment quelque chose de très frappant. Quand vous voyez des élections absolument majeures, capitales, où vous avez plus de 50% d'abstention, quand vous voyez des gens qui ne savent pas encore ce qu'ils vont voter ou qui n'ont même pas lu les programmes électoraux avant d'aller voter, vous dites que la démocratie fonctionnant au pifomètre, en quelque sorte, et à l'envi, etc., ça peut devenir problématique. Effectivement, ça devient problématique.
Alors justement, dans votre grille de lecture pour appréhender cette complexité, il y a une idée que je trouvais particulièrement intéressante, c'est la nécessité de mixer le macro et le micro. Est-ce qu'une des causes de l'abstention, mais aussi de beaucoup de problèmes, n'est pas de s'en tenir un peu trop souvent, peut-être par tradition centralisatrice, jacobine, à la vue macro, qui se prête d'ailleurs aux simplifications, et en laissant de côté... la vision micro des problèmes, mais aussi l'énergie et l'investissement et l'engagement qui peuvent se manifester au niveau inférieur de la société, mais en produisant également des effets.
Vous avez totalement raison, et je pense que si effectivement au niveau des procédures, il y a quelque chose qui doit changer, c'est d'avoir beaucoup plus de flux qui partent de la base et qui remontent vers le sommet que l'inverse. Alors, En France, on est dans un pays particulièrement centralisateur par culture, hein, même si on décentralise. Bon. Mais ces mouvements de la base doivent être entendus, organisés. Enfin, organisés, il faut qu'ils s'auto-organisent aussi. Il n'est pas question justement de les organiser du haut. Mais il faut bâtir des dispositifs qui permettent de s'exprimer. Je dois dire que dans ce registre, l'actuel gouvernement en France, avec ses consultations nationales organisées sur le mode de la discussion ascendante, encore une fois, c'est intéressant. Je trouve ça très intéressant et je pense qu'il y a, vraiment à bien observer, bien comprendre et à prendre ça comme une expérimentation pour essayer d'aller plus loin dans le domaine démocratique.
Vous faites part de quelques expériences, mais qui ne sont pas dans le domaine politique, mais notamment dans le domaine de la médecine, si je ne me trompe pas, et qui sont utilisées de façon récurrente et fructueuse. Je crois que le terme, c'est une des expériences, c'est Résolis, c'est ça ?
Oui.
Nous expliquer cette expérience pour donner un peu plus de concret à ces modes d'action.
Oui. Je vais vous en donner deux.
Les gens pensent souvent que ce n'est pas possible, ou que c'est complexe, ou que c'est technocratique. Ce n'est pas du tout le cas.
Mais je vais vous en donner deux. S'agissant de la discussion citoyenne, il y a effectivement un modèle en médecine, ce sont les conférences de consensus. La grande différence entre une discussion normale habituelle et une conférence de consensus, c'est que normalement, quand vous allez dans une conférence de consensus, vous y allez avec l'idée qu'un consensus est possible et qu'on va chercher à le trouver. Donc on va chercher à trouver ce qui est le mieux pour à peu près tout le monde. Donc en gros, vous êtes censé, ça n'arrive jamais comme ça bien entendu, mais vous êtes censé laisser votre idéologie au vestiaire et essayer d'œuvrer dans le sens de la réflexion partagée sur le bien public. Alors ça échoue de temps en temps, même souvent, mais c'est vrai que c'est pas pareil que d'arriver dans la discussion, ce qui est le cas des débats politiques ordinaires, en disant « je vais essayer d'écraser l'autre ». C'est pas quand même la même chose. Quoi. Donc si vous voulez, ces conférences de consensus, ça rentre un petit peu dans la vie citoyenne et je pense que c'est très extrêmement utile et intéressant et important à suivre. Alors l'expérience de Résolis, c'est un peu autre chose, c'est-à-dire que c'est l'idée qu'en partant de la base, on peut et on doit effectivement trouver des mécanismes de solution à des problèmes sociaux, exemple, le problème de la pauvreté. Alors, pour revenir sur le problème de la pauvreté, c'est un problème colossal qui est évalué avec des indicateurs, à mon avis, les indicateurs publics sont insuffisants. Ils disent quelque chose, mais ils sont insuffisants. Donc, 12 ou 14% de la population française sous le seuil de la pauvreté, c'est-à-dire en fait sous un certain seuil de revenus. Et si vous voulez, ça ne tient pas suffisamment compte, par exemple, des gens qui possèdent ou non leur logement, qui vivent ou non à la campagne, dans telle ou telle et telle condition. Donc voilà, c'est un indicateur un peu grossier, mais c'est un indicateur. Incidemment, et ça peu de gens, je crois, le savent, cette définition de la pauvreté n'est pas homogène. Elle varie dans différents pays. Et j'ai lu dans un livre d'un auteur respectable et respecté que si l'on utilisait l'indicateur français aux États-Unis, on aurait 24% de pauvreté aux États-Unis, ce qui fait un petit peu réfléchir aussi. Bon. Donc en tout cas, si l'on prend la pauvreté comme un système complexe, si vous voulez, au résultant d'un système complexe, ben, il faut documenter. Et là, on tombe exactement dans ce que vous dites sur le micro et le macro, à savoir que quand vous avez un système complexe, il n'y a absolument aucun moyen de le comprendre si on ne connaît pas les éléments du système. Une image pour expliquer ça, vous pouvez tourner autant de fois autour d'une voiture pour essayer de piger comment elle marche en enregistrant les vibrations et tout ce que vous voulez. Si vous n'ouvrez pas le capot, vous aurez quand même du mal à piger comment ça marche. Hein. Et donc, il faut bien à un moment avoir, en gros, la liste des éléments voilà, et savoir comment les choses fonctionnent au niveau micro. Micro voulant pas dire microscopique, voulant dire le niveau, justement, élémentaire. Pour ensuite intégrer ça au niveau macro. Et il y a effectivement des propriétés d'un système qui sont macroscopiques, on peut le dire comme ça, et d'autres qui sont beaucoup plus microscopiques, pour utiliser le terme, en ce sens qu'elles concernent des toutes petites parties du système, mais c'est quand même leur addition et leur intégration qui fait qu'on pige certaines grosses propriétés du système. Donc en gros, il ne faut pas opposer les deux, il faut voir les deux ensemble et il faut bâtir la connaissance, si vous voulez, tirer d'un système qui est global. Donc dans le domaine de la pauvreté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre ce qui se passe à la base. Comprendre ce qui se passe à la base, ça veut dire déjà comprendre ce qui se passe à la base et ce que font les gens à la base. Et dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, vous avez en France un système qui est très, très interpellant et qui d'ailleurs dit beaucoup de choses sur la générosité nationale qui est très très réelle. Vous avez dans notre pays 1 500 000 associations 1901 qui sont, disons, les petites ONG. Là-dessus, vous en avez 1 300 000 qui sont actives et là-dessus, vous en avez à peu près un tiers qui fait de l'action sociale pure et dure. Donc qui aide effectivement, qui cherche à aider les plus pauvres, les SDF, qui cherche à aider les handicapés, les immigrés, etc. Bon. Tout ça mobilise des sommes très significatives, puisque l'ensemble de ces budgets, alors en comprenant les grosses fondations, etc., mais l'ensemble du budget associatif et fondation dépasse les 100 milliards d'euros, qui pour la France, c'est beaucoup d'argent. Même partout, c'est beaucoup d'argent. Donc, vous avez beaucoup d'argent et là-dessus, les deux tiers, en gros, vont à l'action sociale. Donc, vous voyez qu'il y a un enjeu. Et quand vous prenez la casquette ou les lunettes du scientifique que je suis et que vous regardez le système, vous dites, tiens, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. C'est que nous, les scientifiques, comment est-ce qu'on progresse? On progresse en échangeant l'information. On commence par la publier. Et puis ensuite, quand elle est publiée, elle devient en réalité un bien public mondial. En tout cas, pour ce qui est de la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est publié est accessible à tout le monde. Alors, il peut y avoir des questions de coûts, etc. Mais enfin, par principe, c'est accessible à tout le monde. Dans le domaine de l'action de terrain au sens large, cette règle d'or n'existe pas. C'est-à-dire que vous avez des associations qui publient leur compte, hein, ça c'est obligatoire, ça va de soi. Mais savoir exactement ce qu'elles font, les savoir-faire, etc., vous avez très peu de capitalisation. Et cette absence de capitalisation des savoirs et des savoir-faire a des implications qui sont assez sérieuses, à mon sens, en termes d'efficacité, ou plus exactement de défaut d'efficacité, à savoir que le système est, à mon avis, très peu optimisé, faute de collaboration, faute d'échange de bonnes pratiques, faute d'optimisation, quelque part. Si bien que ça renvoie à ce que je pense être d'ailleurs une des grandes dimensions de la démocratie, qui est la question de l'efficacité.
Longtemps occulté, dites-vous.
Alors, longtemps occulté et pas du tout populaire. Que quand les gens pensent efficacité, ils disent immédiatement ouais, ça va être optimiser l'économie,
oui, la rationalisation,
tout le monde à la chaîne, etc., etc. Bon, effectivement, il peut y avoir cette dimension qui est absolument détestable, mais d'un autre côté, on ne peut pas dire non plus qu'une démocratie peut se permettre d'être totalement inefficace. C'est juste pas possible.
Oui, j'expliquais d'ailleurs qu'un des soucis probablement actuellement du modèle démocratique, c'est que, non pas ici, personne n'aspire à être dirigé comme les Chinois, mais qu'en d'autres grandes parties du monde, le modèle chinois peut devenir un modèle, parce qu'il a une réussite notamment économique éclatante au cours des 20 ou 30 dernières années, et que leur premier argument, c'est l'efficacité.
C'est l'efficacité. Et j'aime rapporter une anecdote qui m'est arrivée. J'étais à Singapour et je discutais avec un collègue singapourien qui, à un moment, m'a dit « Mais vos démocraties ne sont pas efficaces ». Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est plus ou moins à l'origine de ce livre, d'ailleurs. parce que c'est en partant de cette notion d'efficacité que j'ai commencé à analyser comment un système complexe peut être efficace, non efficace, etc.
Écoutez, c'est intéressant parce que généralement, lorsqu'on vante la démocratie occidentale, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de parler de leur supériorité morale. Fort bien, mais un système qui est supérieur moralement mais qui ne fonctionne pas, sur le plan des résultats, finit par devenir immoral, parce qu'au final, si le bien-être n'est pas apporté, eh ben, ce ne sont que des discours. C'est ce qui est très séduisant dans l'ouvrage, c'est d'accepter une remise en cause. Ne pas dire que les autres sont forcément des méchants, que les Chinois nous en veulent, que les Asiatiques sont bornés, ou que Dieu sait, et que donc ils sont faits pour la démocrature. Non, il s'agit de comparer et de redevenir les meilleurs en se remettant en cause, et en utilisant les outils que vous donnez, comme la pensée complexe, ou la capacité à mixer macro et micro, et c'est certainement très nécessaire et aussi rafraîchissant. Enfin, ça fait sauter un verrou mental. Car si on en reste à chanter nos propres louanges, on va assez rapidement probablement effectivement très isolé.
On va prendre une claque, oui.
Alors dans ces façons de faire pour... retrouver non pas le leadership, parce qu'on n'est plus arrivé à cela, mais notre place dans cette compétition des modèles, il y a peut-être une ambiguïté à lever. On pourrait croire qu'étant un scientifique qui vient expliquer qu'il faut de nouveaux indicateurs et de nouvelles méthodes, que ce serait une sorte de nouvelle ressucée d'un nouveau gouvernement des technocrates ou des sachants ou que sais-je. Ce n'est pas du tout ça, car si l'expertise a toute sa place dans ce que vous prenez, c'est une expertise plus collective. Vous mobilisez davantage l'intelligence collective qu'une intelligence corporatiste, en quelque sorte. Hein. C'est bien ça ?
Oui. Et une autre dimension qui est totalement essentielle, qui n'a pas été vraiment évoquée jusqu'à présent, mais qui complète, qui résume bien ce que vous voulez dire, c'est que il y a une valeur qui manque, ou plus exactement, il y en a deux. La valeur qui manque, c'est l'altruisme. C'est totalement essentiel, et l'altruisme emporte des devoirs. Donc, si vous voulez, la question des devoirs, du sens du devoir et de l'altruisme, ce sont deux questions de valeur qui sont jointes. Effectivement, il n'est pas question de déléguer tout à l'expertise. C'est un mélange d'expertise nécessaire, mais seconde par rapport aux objets sociaux, les objets sociaux devant être largement pilotés par une finalité qui est double, hein, c'est le bien-être et la justice sociale, avec une assortie de valeurs qui sont les valeurs républicaines que nous connaissons ici et que d'autres pays connaissent avec les mêmes mots presque, sauf celui de fraternité qui n'est pas aussi partagé. Mais ce sont ces valeurs, mais qu'il faut absolument compléter par une valeur d'altruisme. L'altruisme, si vous voulez, pour le dire en deux mots, c'est la solidarité au niveau micro. L'altruisme, c'est une relation entre les êtres au niveau individuel. Et comment voulez-vous construire une solidarité nationale si vous n'avez pas l'altruisme au niveau individuel ? Donc c'est cet ensemble de valeurs, d'efficacité et bien sûr de finalité qui fait que la démocratie peut et doit s'améliorer.
Alors je partage votre constat sur l'altruisme. Il y a probablement un problème que vous soulevez d'ailleurs. C'est que l'altruisme était de l'ordre de la culture. Et comme il y a un passage du livre où vous expliquez que longtemps il était promu par une morale religieuse, en concurrence avec une morale laïque, mais qui après tout dictait à peu près le même genre de comportement à l'égard de son prochain, mais que les religions se sont effacées, il y aura ça, qu'on est à marée basse, mais que la morale laïque ne l'a en réalité pas remplacée, elle n'a pas pris la place, et que reste-t-il donc ? L'individualisme, l'égoïsme, la consommation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est face à un problème qui est peut-être... Ce que je veux dire, c'est peut-être un petit peu rude, mais c'est que... Est-ce que l'altruisme, ça ne se décrète pas ? Alors comment le favorise-t-on ?
Ben, l'altruisme, ça s'éduque et ça s'enseigne. Hein. Donc ça nous ramène aux tentatives faites du temps de la Troisième République pour développer un enseignement laïque qui compense effectivement l'enseignement religieux, dont je tiens à dire qu'il n'a pas été parfait non plus. On ne peut pas dire que...
Bien entendu.
Voilà. Et il y a encore autre chose à dire sur l'enseignement religieux, c'est que par ailleurs, l'enseignement religieux et le système religieux en général ont touché beaucoup les populations grâce aux systèmes sociaux qu'ils mettaient en place. Donc en gros, là où les systèmes sociaux étatiques, éventuellement laïques, sont déficients, eh bien, ce sont les systèmes religieux qui prennent leur place. Et l'équilibre entre les deux est donc indispensable aussi pour bien comprendre l'importance de la laïcité.
Toujours est-il que ça va être une entreprise de longue haleine, car ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur un mandat. Ça nous amène à changer une culture, une mentalité, une approche, un regard porté sur les autres. Au minimum, c'est une génération. Et encore, faudra-t-il que ça puisse changer d'un coup. Mais je ne disais pas ça pour dire que c'est impossible, loin de là. Mais pour pointer cet autre problème, ou cette autre donnée, pour parler comme vous, c'est celui de la contraction du temps. Nous sommes dans des sociétés où tout va de plus en plus vite et où on souhaite que tout aille de plus en plus vite, que tout soit donné, enfin une société un petit peu à portée de clic. On espère que les changements soient à portée de clic, comme ceux qu'on a sur la souris de notre ordinateur, et de désynchronisation des temps médiatiques, du temps politique, du temps des citoyens, du temps des communautés. Comment est-ce qu'on peut réarticuler tout ça, puisque vous le pointez comme l'un des verrous qui nous fait beaucoup de mal, à juste titre.
Honnêtement, je ne sais pas, mais je pense que un point vraiment très, très, très critique, c'est la question du temps libre. Parce qu'il y a de plus en plus de temps libre. Et dire que, comme certains, le temps libre, c'est très bien, c'est inoffensif, etc., ça dépend complètement de ce qu'on en fait du temps libre. Donc, j'aime bien citer André Gorz, qui a beaucoup écrit et pensé sur la question du temps libre. Si on en fait un temps d'altruisme, de coopération sociale, etc., formidable. Si on en fait l'abêtissement des jeux vidéo systématiques, les plus bêtes, la drogue, hein, pourquoi pas, on peut tomber dans des sociétés totalement divergentes. Et le temps libre, et là-dessus, il faut faire aussi très attention, c'est une magnifique source d'inégalités sociales. Et ça, je pense que c'est vraiment à réfléchir, parce qu'il y a de plus en plus de temps libre, et c'est théoriquement très bien, hein, qui s'en plaint. Mais la question des inégalités sociales et des fractures, elles sont multiples. Vous avez cette fracture-là, la fracture du temps libre, vous avez la fracture numérique, bien entendu, qui se corrige quand même un petit peu, mais vous avez une fracture de l'information qui est absolument colossale. Et donc, si on veut maintenir la démocratie, il faut aussi contrôler, enfin faire en sorte que l'information ne soit pas le privilège d'un tout petit nombre qui, effectivement, va bâtir une oligarchie de l'information qui va contrôler tout le bazar. Et je pense que c'est un des risques très importants. Alors théoriquement, on a le temps libre pour s'informer, et dans la pratique, très peu le font. Donc je pense que la question du temps libre est une de ces autres questions qui va prendre peut-être une génération à analyser, je ne sais pas, mais qui est vraiment très, très importante.
Au fond, et peut-être cela peut-il ouvrir sur notre conclusion. J'ai eu le sentiment, en lisant le livre, que vous replaciez l'ensemble des... Les vraies menaces pour la démocratie n'étaient pas dans ceux que l'on désigne comme leurs ennemis, qui ne seraient que des symptômes de ces dysfonctionnements, mais dans ces dysfonctionnements internes qu'il s'agit de résoudre pour atteindre une plus grande robustesse, et que ces dysfonctionnements sont aussi liés, comme vous l'avez dit au début, à des changements d'environnement majeurs. Des changements technologiques, des changements environnementaux, des changements peut-être anthropologiques demain, beaucoup de choses à prendre en compte. Quand vous regardez notre classe politique, vous avez envoyé votre livre aux décideurs politiques, vous avez des contacts avec
quelques-uns,
eux.
Quelques-uns, mais je n'ai pas eu beaucoup de réactions.
Oui, ils sont en campagne électorale, peut-être qu'ils le liront plus tard. Quels sont les échanges actuellement entre le monde de la science et le monde de la décision politique de façon plus large, au-delà du livre.
Ils sont à peu près bons. Hein. Encore une fois, ça dépend où. Ils sont excellents en Chine, par exemple.
Bah zut.
Oui, oui. Non, mais si vous voulez, dans les pays émergents, il y a une sorte de confiance dans la science qu'on n'a plus tellement ici. Ceci dit, il y a une vision de la science qui n'est pas forcément la même que celle que nous avons et qui cherche la science efficace, alors là, pour le coup. Il n'empêche que lorsqu'on a bien inscrit dans le modèle que pour être efficace, il faut maintenir la recherche fondamentale à un très haut niveau, ça tourne. Hein. Donc la question de la science est très importante. Il faut évidemment maintenir le niveau qu'il faut de science fondamentale. Il faut aussi voir qu'il faut une certaine efficacité. Sinon, pourquoi le corps social financerait la recherche s'il n'en voit pas un certain nombre de bénéfices? Alors le bénéfice de la connaissance, je suis évidemment le premier à me prosterner devant. Mais la question de maintenir un certain équilibre et une compréhension sociale et une communication est très très important. De la même manière qu'au fond, ce qui est très important dans la science, c'est tout autant la méthode scientifique que la science. Dans tout ce que j'écris dans ce livre, en fait, je défends la méthode scientifique beaucoup plus que la science. Les résultats de la science, ils sont là. La méthode scientifique, c'est ce qui permet notamment de lutter contre la post-vérité, toutes ces âneries qu'on nous balance de partout. Il faut de la méthode et de la méthode scientifique pour ça. C'est ce qui permet d'améliorer les systèmes sociaux. C'est ce qui permet de faire... à mon avis, pas mal de progrès, même si ça n'est pas tout, et d'autres progrès sont à chercher dans le domaine des valeurs.
Pour aller plus loin encore dans cette direction, est-ce que l'un des enjeux, au-delà de la méthode scientifique ou la nécessité de les adopter, est-ce que ce n'est pas la vision propre à la biologie qu'il faudrait diffuser vers les décideurs? Je m'explique, une société plus simple comme celle d'avant pouvait fonctionner avec un schéma qui est de l'ordre mécanique, mécaniciste. Une cause entraîne une conséquence. La société était vue comme une série de rouages, alors qu'une société démocratique, libérale, complexe comme celle d'aujourd'hui, elle s'apparente, comme les deux figures que vous avez publiées le montrent, à quelque chose qui est de l'ordre du biologique, et où les certitudes sont plus incertaines, où on avance avec plus de souplesse, où l'agilité, la résilience, le renouvellement ont davantage de place que les jugements péremptoires.
Je vous corrige là-dessus, parce que je ne pense pas que le modèle biologique soit si important que ça. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre la complexité, telle qu'elle est définie dans les systèmes complexes, et en particulier en biologie aujourd'hui. Mais... voilà, le lien est dans ce sens-là et pas dans l'autre.
Bon, écoutez, saluons la modestie des biologistes et leur souhait de ne pas se fâcher avec leurs collègues des autres disciplines qui ont bien sûr également toute leur place dans la compréhension de ce réel si complexe. Monsieur, merci de votre propos. Je pense que nos auditeurs ont compris que nous n'avions pas épuisé le sujet. Et qu'il faut donc absolument qu'ils se plongent dans cet ouvrage, non pas pour trouver des réponses à tout, mais pour stimuler leur réflexion, changer de regard sur ce monde complexe qui nous entoure, complexe, mais avec un horizon du coup extrêmement vaste, car peut-être c'est la dernière chose, la dernière vertu de votre livre, c'est de redonner de l'appétence et de l'envie d'agir, et ça c'est déjà une belle victoire. Merci beaucoup. Je donne donc les références de ce livre pour que vous puissiez vous le procurer, De la science et de la démocratie, par Philippe Kourilski chez Odile Jacob. Merci encore, monsieur.
Merci beaucoup.